nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pour que ce soit suffisant, il faut le dépassement. Et le dépassement, c'est dans l'amour. Et cet amour présuppose la vérité, parce que si cet amour ne présuppose pas la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que cet amour est maintenu toujours par le travail, l'efficacité. Vous voyez ? Mais alors, il y a un autre fondement différent, et ça c'est très important à comprendre, c'est pas le même fondement. Vous voyez, je pourrais très bien, comprenez bien ce que je vais dire maintenant, je pourrais très bien, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier lieu, ne regarder que cela, sans regarder ce quatrième plan. Quoi ? Non, je pourrais très bien, beaucoup d'hommes, surtout aujourd'hui, voilà, exactement, qui n'ont pas encore découvert. Et la personne humaine se structure avant l'attitude religieuse. Ne dites pas que la personne humaine est structurée par l'attitude religieuse, ce serait terrible. La personne humaine, c'est important de souligner ça. Nous reverrons d'une autre manière en étudiant l'agir, mais c'est très important. Il s'agit de comprendre que l'attitude religieuse me permet d'aller plus loin, mais elle ne structure pas la personne humaine. La structure de la personne humaine, elle est l'autonomie, l'amour, la vérité et le travail.
L'attitude religieuse est facultative.
Non, elle est nécessaire.
Mais elle n'est pas première.
Elle n'est pas première et fondamentale.
Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire ?
Parce que l'homme met du temps à découvrir cette dépendance radicale à l'égard.
C'est donc, on rejoint la psychologie, l'inverse de l'autonomie, en quelque sorte, la dépendance.
Non. Ah. Je vais vous citer une phrase d'un grand philosophe païen, Plotin, 2e siècle après Jésus-Christ. Plotin dit ceci. Dépend d'un être qui est inférieur à nous, est une aliénation. Dépend d'un être qui est supérieur à nous est une libération. C'est très beau.
Il y a quand même dépendance.
Ben oui, mais la dépendance n'est pas l'aliénation.
Dans le sens où vous parlez de contrainte ce matin.
Mais non.
L'indépendance, c'est pas la même chose.
Mais c'est pas la même chose du
non,
tout.
Mais c'est complémentaire.
Mais non, c'est pas complémentaire. C'est pas complémentaire du tout. La dépendance à l'égard d'une source est une libération. Plus je m'approche de ma source, plus je suis libre. Vous voyez ? C'est ça, exactement. Plus je suis libre. Et c'est la grande liberté qui m'est donnée. Mais alors, voyez, c'est ça qu'il faut essayer de saisir, parce que ça, je crois que c'est très important dans la question de la personne humaine. Hein. Et c'est très important au point de vue éthique. Nous le reverrons au point de vue éthique, parce que si nous avons le temps. Vous voyez, comprendre que tout ceci est repris dans ce quatrième point. Le quatrième point va reprendre tout dans une nouvelle dimension, la dimension religieuse. Oui. C'est pour ça que ce n'est pas accidentel, c'est un approfondissement. C'est un prolongement de la personne humaine. Et la dimension dernière, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais théologie est tellement équivoque aujourd'hui, parce que théologie naturelle. Théologie naturelle, je suis d'accord. Et contemplation. Parce que c'est adoration et contemplation. Il y a une contemplation naturelle. Et il y a une adoration qui est l'attitude naturelle de l'homme religieux.
On dit souvent le dur à aimer et être aimé, c'est-à-dire aller et retour.
Oui, c'est l'amour d'amitié.
Ah oui, alors dans l'amour d'amitié, il y a l'aller et le retour.
Ah, toujours, ça nous verra. Il ne peut pas y avoir d'amour vrai. L'aller-retour. L'aller-retour parce qu'il y a un choix mutuel. Vous voyez ? C'est dans un choix mutuel. C'est dans la conscience d'être aimé et d'aimer. Vous voyez ? Et alors c'est pour ça que ce n'est pas accidentel, mais c'est important de souligner que la structure de la personne humaine est donnée antérieurement à cette découverte de la dépendance à l'égard de Dieu.
Quel est le but alors de la personne humaine ?
C'est d'aimer. Mais c'est sa finalité. La personne humaine est
uniquement
faite pour aimer.
Uniquement. Et c'est en aimant qu'on est heureux.
C'est un débat qu'on est heureux.
Et qu'on est libre.
Et qu'on est libre.
Et alors, quand on est chrétien, on
lit... Exactement. On finit la boucle. Vous voyez, l'amour humain, le point de vue chrétien, va faire le lien entre adoration, contemplation et amour d'amitié. Voilà les deux aspects. Cet aspect relié, cet aspect second. Alors, au point de vue chrétien, l'aspect second devient premier et l'aspect premier devient second. Il y a une espèce de reprise. Et là, vous avez le caractère de la personne chrétienne. Autrement dit, personne humaine, personne religieuse humaine, naturelle, personne chrétienne. Le problème de la personnalité a trois niveaux dans le climat de notre vie chrétienne. Ou dans le climat de notre Europe, qui a été christianisée. Il y a la personne, le noyau de la personne humaine, qui se structure autour de cette autonomie, de ce point de vue de l'amour d'amitié, la recherche de la vérité et le travail, quatre dimensions, mais qui sont le point de vue de l'homme. La personne humaine religieuse, qui est de comprendre comment, de fait, l'homme est une créature, et donc, il doit remonter à sa source, adorer et contempler. Et comment l'homme, au point de vue chrétien, il est repris dans ces deux finalités qui fait une. Parce que c'est propre du point de vue chrétien de faire que les deux ne font plus. Vous voyez ? Alors, c'est schématique ce que je vous donne, je suis tout à fait d'accord, c'est schématique. Mais je crois, croyez-le, que c'est vraiment un aspect qui nous donne la structure de la personne humaine. Et ce qui me semble important, c'est que ça assume parfaitement toutes les recherches des psychologues d'aujourd'hui. En l'assumant, en mettant un ordre. Ce que la psychologie ne donne pas. La psychologie ne peut pas donner d'ordre, parce que la psychologie ne peut pas saisir ce qu'est l'amour. Je sais que ça scandalise les psychologues quand on dit ça. Je vous en donne un exemple, parce que là, c'était dans un exemple dans une prédication, c'était en Suisse, je prêchais dans un endroit, et j'avais dit cela au cours de la prédication, c'était les noces de Cana. Et j'avais dit que la psychologie ne pouvait absolument pas saisir ce que c'est que l'amour, il ne fallait jamais l'oublier. Les psychologues nous donnent le conditionnement, les psychologues nous parlent du plaisir et du désir, mais ils ne peuvent pas nous dire ce qu'est l'amour. Alors, évidemment, à la fin de la conférence, quelqu'un se précipite sur moi en me disant « Il y a dans l'assistance quelqu'un qui est furieux contre vous. » Tant mieux. Ça suscite toujours des... Je ne fais pas exprès, mais c'est très bien. Il y a l'assistant de Piaget. Il y a l'assistant de Piaget qui est là, qui a assisté à votre conférence. Il dit, tiens, il dit « Oui, il est valaisan. » Et puis on me dit dans le creux de l'oreille, il est fiancé. On me dit, non, si il est fiancé, on est sauvé. Alors, en effet, je le vois, s'il était venu, c'est un peu brave, très brave. Il me dit, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je dis, pourquoi ? Parce que vous avez dit que la psychologie ne pouvait rien dire sur l'amour. Alors j'ai dit, du tac au tac, il dit, pareil, vous êtes fiancé. Je dis, oui, voilà ma fiancée. Très bien. Votre psychologie de Piaget vous a servi beaucoup pour aimer votre fiancée. Alors, il m'a dit une façon brutale. Pas du tout. Vous voyez bien. Alors, c'était le cri du cœur. Ça ne m'a servi à rien. Et je lui dis, c'est la seule chose que j'ai dite. Donc, vous voyez bien que la psychologie ne vous dit pas ce que c'est que l'amour. Et j'espère que maintenant, vous avez compris qu'il y avait un au-delà de la psychologie, qui était aimer une personne humaine. Et que c'est ça l'important. Alors il m'a dit, ah, alors si c'est ça que vous avez voulu dire, ah, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est exactement ça. C'est parce que, vous voyez, vous êtes pris, parce que quand on dit une limite à la psychologie, tout de suite vous êtes dans un état d'irascibilité. Parce que j'ai mis une limite à la psychologie, mais j'ai tout simplement dit la vérité. La psychologie ne nous donne que le comportement humain. Or, le comportement humain ne nous donne pas la finalité de l'homme. Et toute la question, c'est de distinguer le comportement de l'homme et la finalité de l'homme. Le comportement humain nous conditionne, mais le comportement humain ne nous détermine pas. Il faut arriver à saisir la distinction entre le comportement et le conditionnement et la détermination de la finalité. Et c'est ça la chose importante au plan philosophique. C'est là où vous sortez du positivisme. C'est en comprenant ce dépassement qui nous fait aller à la fin pour découvrir que la fin nous finalise et que la fin nous attire et que la fin suscite en nous un amour. C'est très mystérieux l'amour, je suis tout à fait d'accord, c'est très difficile. Je ne peux pas dire que le philosophe explique l'amour. Mais le philosophe sait que l'amour, c'est un certain absolu. Et que c'est par l'amour que l'homme se dépasse et arrive à découvrir sa véritable finalité. Et tant qu'il n'a pas découvert cela, il ne sait pas, il est un être errant. C'est un être errant, parce que le reste ne peut pas nous donner une finalité qui nous contente vraiment, qui nous donne le vrai bonheur. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, le vrai bonheur, c'est la cité du Damas. C'est ça que je dirais, le vrai bonheur. Nous le verrons tout à l'heure, le bonheur. Mais je ne l'ai pas à propos de l'agir. Je ne cite pas dans la structure de la personne. Hein. Parce que le bonheur est une conséquence. Une personne heureuse, on dirait une personne heureuse. Elle est bien heureuse, elle est merveilleuse. Hein. C'est une conséquence. Comme elle est la joie, c'est la même chose.
Hein. La joie, la gloire, le bonheur.
Tout le monde cherche la conséquence.
Et oui.
Tout le monde cherche la conséquence. Oui. Tout à fait d'accord. Et le philosophe remonte à la source. Tout le monde descend le fleuve, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout le monde descend le fleuve et le philosophe cherche la source. Alors vous allez me dire pourquoi ? Pour pouvoir ordonner. Si je ne cherche que les conséquences, je ne peux pas ordonner. Le propre du philosophe ayant saisi la source, il peut ordonner. Il peut saisir à ce moment-là ce qu'est la structure de la chose. Tant que je n'ai pas saisi la source, tant que je n'ai pas saisi le principe, je ne peux pas ordonner. Et alors je suis dans...
Mais ordonner, c'est de l'ordre logique.
Donc mais non, pas... l'ordre métaphysique, l'ordre philosophique. Vous voyez, l'ordre philosophique.
Où on retrouve là, l'ordre... Je comprends qu'il y a un ordre, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un ordre ?
Parce qu'il y a une complexité.
Oui, tout à fait d'accord.
Et une complexité.
Complexité et unité, moi je veux bien.
Bien sûr, une complexité. S'il n'y avait pas de complexité, je serais dans la simplicité. Je n'aurais pas besoin d'ordre. Vous voyez ? Bon, alors la complexité, pour s'unifier, a besoin de s'ordonner. L'ordre unité. Ben oui. Et vous avez besoin d'unité. Dans votre vie, hein, quand vous perdez l'unité dans votre vie, hein, quand vous êtes trop pris par l'agitation, quand vous êtes trop pris par une succession de choses qui viennent, et que vous avez une avalanche de choses, vous n'arrivez plus à saisir votre unité. Pourquoi ? Parce que votre finalité n'émerge plus. C'est très important de saisir ça. Alors à ce moment-là, on peut emmagasiner des quantités d'activités, mais c'est ordonné.
On pourrait dire à votre prochain client.
En faisant comprendre, on est en dessous du niveau de la mer. Oui, mais c'est très important. C'est vital, ça, ce que je veux dire. Vous voyez l'efficacité, hein ? Vous voyez l'efficacité ? Vous voyez, il dit, ça mord, hein ? Vous voyez ? Oui. Quand vous êtes pris, je vous dis, quand vous êtes pris par l'agitation, quand vous êtes submergé par une quantité d'activités, il y a des moments comme ça dans notre vie. Moi, je sais bien, quand je suis à la fin d'un trimestre, je reçois des lettres qui s'accumulent, je ne peux pas répondre. Je suis devant l'immédiat. Et ce qui est merveilleux à ces moments-là, c'est la survie qu'on a. C'est qu'on oublie les quantités de choses. Je dis aux gens de m'écrivez surtout pas à la fin de semestre, j'oublie tout. Pourquoi ? Parce que je dois être attentif à ce que je dois faire immédiatement. Et je dois faire ça, le reste je l'oublie. Automatiquement, je ne dis pas du tout. Les psychanalystes diraient, ah, vous oubliez donc qu'il y a un inconscient. Mais pas du tout. J'oublie tout simplement parce que je suis très attentif à ce que je dois faire et qu'il y a une avalanche. Alors, je suis très attentif à ce que je veux faire parce que je veux le faire bien. La période des examens, c'est très important. C'est le dernier contact qu'on a avec les étudiants. Et si on veut faire son métier de philosophe bien, on doit maintenir le contact personnel. Et donc, c'est très très important de maintenir ce contact personnel. C'est le grand moment où on est personnel. C'est dans un moment d'examen pour rendre l'étudiant plus intelligent. N'est-ce pas ? Parce que c'est ça. Moi, c'est plus un acte humain. Il faut que ce soit un acte humain. Donc, il faut aller jusqu'au bout des relations humaines. Alors, il faut à ce moment-là être très attentif. Et quand on est pris par un tas de choses, on risque d'oublier. On le sait. Donc, il faut, quand on est pris par l'avalanche, par une quantité de choses, vous voyez, c'est parce que votre finalité n'est plus assez en acte. Elle n'est plus assez vécue. Si la finalité était plus vécue, immédiatement, les choses tombent. On les reprend après. On sait qu'on les a sauvées. Mais on les reprend après et on les organise après.
Est-ce oui. que ça veut dire que vous voulez vivre à ce moment-là votre finalité dans l'amour immédiat, dans l'instant présent de l'amour, c'est la présence aux
la
autres.
Présence aux autres.
Et laisser tomber tout ce que vous pouvez leur promettre, parce qu'en fait, ça se traduira comme ça.
On laisse tomber des choses secondaires qu'on sait qu'on peut reprendre après.
C'est c'est-à-dire que l'organisme en tant qu'organisme électronique, à la limite, se met en état de.
C'est, je veux
c'est
bien.
Une procédure de oui, survie, mais... quoi. On court-circuite tout le reste et puis on alimente
le milieu. Tout à fait. Ça, vous l'expliquez par la cause matérielle. Moi, je l'explique par la cause finale. Oui, j'explique par la cause finale. Et la cause finale, l'avantage, c'est que je suis conscient. Tandis que ce que vous me dites là, je n'en suis pas conscient. Mais là, je suis conscient. Je suis conscient quand je suis pris par une activité. Je sais qu'il y a quelque chose. On est fatigué, on est à bout de souffle, mais on veut tenir jusqu'au bout. Alors, on tient sur la chose essentielle qu'on doit absolument faire. Et on laisse tomber les choses secondaires. Quand on est en pleine santé, on peut tout faire, on brasse tout. Mais quand on ne peut pas, on laisse tomber exprès et on est conscient.
Parce que... Où est le conscient, où est le hasard, où est la nécessité.
On est très conscient de ce qu'on fait quand on fait ça. Moi, du moins, je suis très conscient de ce que je fais quand je fais ça. Je le fais délibérément. J'ai opté pour ça parce que je sais que c'est ça que je dois faire. C'est ça qui me finalise, puisque je dois le faire. C'est, ça fait partie de mon travail actuel. Alors je le fais, je suis conscient de ça.
Et est-ce que alors, à ce moment-là, on peut discerner mieux des... Parce que là-dedans, ça devient plus complexe, on est beaucoup plus clair. Est-ce qu'au moment d'un examen, est-ce qu'on est suffisamment lucide pour faire
je vais
les
priorités donner... Quoi
pour faire les priorités, parce que finalement, c'est ça le problème.
C'est l'ordre. C'est la question de l'ordre. C'est la question de l'ordre. Une priorité qu'on doit faire dans sa vie. Enfin, être un citoyen conscient et organisé. Hein, c'est... un citoyen conscient et organisé qui doit essayer de comprendre ce qu'il doit faire.
Finalement, c'est la préoccupation essentielle d'un chef d'entreprise. Quand un chef d'entreprise nous dit qu'il est enseveli par les tâches, par les demandes, par les... qui lui tombent de tous les côtés, par les tâches techniques, administratives, etc., c'est arriver à gérer cela et ne pas oublier la finalité de l'entreprise. Et la finalité de sa tâche qu'il a à remplir dans l'entreprise. Mais très souvent, il se laisse gagner par ce qui est immédiat, il oublie totalement la finalité. Et c'est là la grosse difficulté du chef d'entreprise.
La grosse difficulté parce qu'il n'a pas assez conscience de ce que c'est sa personne, de sa finalité. Moi, j'en suis persuadé. Et je dis, là, il y a un problème vraiment d'autonomie au sens très très fort et profond, de savoir que, de fait, la personne est celle qui a cette possibilité de prendre possession de toutes ces... C'est cette complexité dans laquelle elle se trouve, et dans laquelle nous nous trouvons tous, pour unifier notre vie. Oui. Ah, c'est difficile de définir l'intelligence. Notre capacité d'accueil vis-à-vis du réel. C'est ça être intelligent. Du réel.
Tout ce qu'il y a,
c'est pour le client. Notre capacité d'accueil à l'égard du réel. Oui, du réel. De l'autre. Mais oui, on confond la plupart du temps l'intelligence et le raisonnement. Oui. Et alors, en dernier lieu, la mécanique, la logique. Un être intelligent, c'est devant. C'est pas ça, un être intelligent. Un être intelligent est en premier lieu cette capacité d'accueil à l'égard du réel. Et alors, ensuite, un être intelligent, capacité d'accueil à le réel et le comprendre. Vous savez ? Non, capacité à l'égard du réel et de le saisir ensuite. Vous voyez ? Les deux. Il y a l'aller et le retour, comme je disais tout à l'heure. Il y a l'aller et le retour, parce qu'il y a les deux. La capacité d'accueil, il y a des gens qui peuvent être une capacité d'accueil merveilleux. Vous voyez bien. Le grand panorama idéologique, et puis la personne humaine. inutile de comprendre que dans les idéologies, ce que je vous ai dit de la personne humaine, dans son aspect de finalité, d'amour, recherche de la vérité, disparaît. Les deux points. Et même l'aspect de l'autonomie, c'est-à-dire de l'âme spirituelle, l'esprit. Quoique les idéologies ne touchent pas ce que c'est l'esprit. Ils touchent la raison dans son mécanisme et son développement, mais pas l'esprit. Alors c'est intéressant de voir là les trois grandes blessures. Hein. Et ce serait intéressant à voir ces trois grandes blessures. Les quatre, si vous voulez. Je mettrai les quatre. Je mettrai l'amour. Pour savoir où l'homme est blessé, où l'homme moderne est blessé, où il faut le penser, fonctionner, si on est là auprès de lui pour essayer de le sauver, de comprendre les grandes blessures. Eh bien, toutes ces idéologies ont blessé l'homme du côté de sa capacité d'aimer, de sa capacité de la recherche de vérité désintéressée, la recherche de la vérité et de la contemplation de la vérité, la recherche de le point de vue de l'autonomie. Parce que les idéologies nous relativisent aux idéologies, et puis sa capacité religieuse.
Pourquoi dites-vous que la recherche de la vérité est désintéressée?
Oui, la recherche de la vérité pour elle-même. Il y a une recherche de vérité pour elle-même, voyez, puis après il y a les applications. Or, très facilement, on ne recherche plus que la vérité qu'en vue d'une application. Vous voyez, la recherche de la vérité, c'est la recherche de la réalité telle qu'elle est. Quoi. Pour elle-même. Ce sont les quatre grandes blessures. Autonomie et l'attitude religieuse. Vous voyez ? Les quatre grandes blessures. Et au fond, vous voyez, c'est l'été noir de l'esprit, moi je crois. Je crois que les idéologies suppriment l'esprit, ne laissent plus qu'un homme dans son devenir. Donc dans son conditionnement. Parce que le devenir, c'est essentiellement le conditionnement. Et dans son conditionnement, c'est-à-dire un homme manœuvrable, qui peut être manœuvré comme on veut. Parce que c'est par l'autonomie, et on avait dit, la recherche de la vérité et le point de vue de l'amour, que nous échappons à toutes les idées. Que nous dépassons les idées. Alors, il y aurait un autre aspect, je vais essayer de le faire avec vous maintenant. Nous allons essayer de comprendre les deux grandes expériences fondamentales de l'homme, et demain nous verrons la troisième, les deux grandes expériences fondamentales de l'homme, c'est l'expérience du travail et l'expérience de l'amour d'amitié. Alors, on va voir ce qui est impliqué dedans. Je crois que toute philosophie réaliste, que nous essayons de faire pour nous, nous sommes toujours à reconnaître qu'il y a pour nous deux grandes expériences fondamentales. La troisième, ce sera la coopération. Construire une communauté. Les deux grandes expériences fondamentales de l'homme, c'est le travail et l'amour de l'amitié. Et ce que nous pouvons saisir tout de suite dans notre vie humaine, au fond, les deux grandes expériences sur lesquelles nous sommes axés. Le travail nous met dans le temps. Je ne dis pas que l'amour d'amitié nous met dans l'éternité, mais l'amour d'amitié nous met au-delà du temps. Je ne peux pas mesurer l'amour d'amitié. C'est la durée intérieure. Le travail ne me donne pas le sens de la durée intérieure. Mais c'est où je mesure le travail. Alors évidemment, le travail laborieux me donne le sens de la durée du travail. Pas quand je travaille durement, péniblement, ça dure longtemps. Quand j'aime, la durée est brûlée. C'est pour ça qu'il y a un sens d'éternité. Et c'est ce qui est très curieux, c'est très vrai que l'amour d'amitié me donne une nostalgie d'éternité. C'est l'amour qui donne la nostalgie d'éternité. Parce que quand j'aime, je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Tandis que quand je travaille, je ne voudrais pas que ça s'arrête jamais. Bon, bien saisir qu'il y a dans l'homme, dans ces deux expériences, ces deux fondements par où je construis l'homme, je me construis en travaillant, je me construis en aimant. Mais je n'aime pas pour me construire, j'aime pour me dépasser, tandis que je travaille en me construisant, toujours. ça c'est sûr, et en coopérance avec les autres. Alors, simplement pour que vous compreniez mieux, je donne la petite synthèse, ça nous permettra de reprendre le problème de la personne sous ce point de vue, je vous avais dit, des 7 dimensions de l'anthropologie. Je ne vous les ai pas données hein, tout à l'heure, mais je vais vous les donner maintenant. Alors, il y a la coopération. Nous verrons demain cela, la coopération. Coopérer implique travailler avec quelqu'un et avoir confiance en lui. Bon, nous verrons ça demain. Je crois que toute la personne humaine se construit à partir de ce triangle de base. C'est un triangle de base qui va loin. Alors, ces 3 dimensions nous font comprendre que l'homme est homo faber. Homo faber, vous comprenez tout ce que ça recouvre. Pour ne pas dire l'homme travailleur. C'est l'homme travailleur. Il est homo amicus. L'homme ami. Et puis homo politicus. Voilà 3 dimensions absolument nécessaires à une anthropologie. L'homme ouvrier, l'homme ami, l'homme politique. Quand je dis l'homme politique, vous voyez, c'est aussi bien l'ouvrier que le patron, c'est l'homme politique qui construit la cité, qui construit la communauté. Et qui construit la communauté, aussi bien une communauté de travailleurs qu'une communauté politique. À partir de là, le philosophe doit reconnaître que l'homme qui travaille, il travaille une matière. Nous allons voir ça tout de suite. Ça. Il travaille une matière. C'est toujours une matière qu'on travaille. Si je prends matière dans le sens le plus général, c'est aussi bien dans la philosophie réaliste que dans le marxisme, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est là il y a un point de contact. La matière, c'est tout ce qui est capable de changer, tout ce qui est capable d'être transformé. Je prends la matière dans ce sens-là. Eh bien, la différence avec le marxisme et une philosophie réaliste, c'est que, de fait, je peux regarder la matière pour elle-même. Et j'aurai ce qu'on appelle la philosophie de la nature, ou la philosophie de la matière, ce qu'on va appeler de façon traditionnelle la philosophie de la nature. Où je comprends que l'homme, le corps de l'homme, est partie de l'univers. Puis, l'amour d'amitié me fait comprendre que l'amour, si puissant qu'il est, cependant est mis en échec par la mort. Il faut donc étudier qu'est-ce que c'est que la mort, qui est la limite de l'amour d'amitié. Vous voyez, ce sont les limites. Quelle est la limite de l'homo faber? C'est la matière. Quelle est la limite de l'homo amicus? C'est la mort. La mort est la limite de l'amour. Quand j'aime quelqu'un, je voudrais, dans la mesure même où je l'aime, qu'il ne meure jamais. C'est la mort qui montre que mon amour n'est pas substantiel. Puisque, de fait, je ne peux pas lui donner la vie tout en l'aimant. Et donc, il y a la mort. Il y a la philosophie de la mort. C'est la carte. C'est-à-dire la philosophie de la vie. L'homme est le vivant le plus parfait que je connais. Et puis, en dernier lieu, la philosophie politique, elle, doit se poser la question si le bien commun est le bien le plus parfait, ou bien s'il y a un bien au-delà du bien commun, un bien suprême. Et pour cela, il faut entrer dans ce qu'on appelle la philosophie première, la métaphysique. La métaphysique me permet de comprendre que l'homme est une personne, c'est-à-dire une substance spirituelle, vous avez vu, une substance spirituelle ordonnée vers le point de vue de l'amour, ordonné vers la recherche de la vérité. Et que, cependant, il est entièrement conditionné par le vivant et qu'il est lui-même partie du nouvel. Et la philosophie première, la métaphysique, va me conduire vers ce qu'on appelle la théologie au sens des anciens, au sens d'Aristote, la théologie, au sens de Platon, la théologie, c'est-à-dire le logos sur Dieu, la théologie naturelle, où je découvre que l'homme, la personne humaine, est une créature. Homo religiosus. Voilà les six grandes parties, ou les sept grandes parties de la philosophie. C'est pas pour atteindre le chiffre 7, hein, comprenez bien. Hein, c'est 6, je vous dis. 4, 5, 6, 7. Toute la philosophie est ordonnée à l'étude de l'homme. Vous avez là les sept grandes dimensions de l'homme. Et la huitième, il faut bien une huitième. Ah, vous êtes. La huitième, hein, la huitième, je la mets ici, au-dessus de tout, parce qu'elle englobe tout, c'est l'attitude réflexive de la critique. En prenant critique au sens positif, la conscience que j'ai de mes diverses activités, et que je peux à chaque instant les préciser, les rectifier. Il y a donc huit dimensions dans la philosophie de l'homme. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est pas du tout, j'ai pas dit ça a priori, hein, trop différemment, non. Ces dimensions-là, vous les retrouvez dans la philosophie la plus classique, je les reprends dans un ordre différent. Mais en faisant ça, je reprends les dimensions les plus classiques. Vous voyez, toute la philosophie part de l'expérience. Première expérience, le travail. Deuxième expérience, l'amour d'amitié. Troisième expérience, la coopération. Ça, je ne peux pas nier, il y a trois grandes expériences dans la vie. Puis, l'expérience du devenir. Qui refait la philosophie de la matière, la philosophie de la nature, la philosophie de l'univers. Je suis parti de ce tout qui est l'univers. Puis l'expérience du vivant, et le jugement d'existence, ceci est. La métaphysique, la philosophie première, ce qu'on appelle la métaphysique, la philosophie première part du jugement d'existence, ceci est. Pour essayer de comprendre ce que c'est que l'être, la métaphysique, c'est la métaphysique de l'être. La métaphysique de l'être me conduit à poser l'être premier que nous appelons Dieu, et ceci me permet de découvrir l'homme religieux. Vous voyez comment vous avez les sept grandes dimensions d'une anthropologie réaliste, quand même très crue, hein. Les sept pierres d'attente. Hein, c'est ça que j'appelle les sept pierres d'attente. Vous voyez ? Les sept dimensions. L'homme par le corps, au point de vue du corps, par où il est parti, en tant qu'il est vivant, en tant qu'il est une personne ayant une âme spirituelle, l'esprit, la personne qui est l'esprit, par où il est capable d'adorer et de contempler. Oui. Ceci, c'est pour confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et pour voir comment nous pouvons y arriver. Je vous ai donné le résultat, la synthèse. Eh bien, si vous comprenez que toutes les parties de la philosophie partent de l'expérience pour essayer d'analyser jusqu'au bout l'expérience, l'homme est toujours présent à toutes les parties de la philosophie. Et toutes les parties de la philosophie me mettent en présence de l'homme sous une de ces dimensions. Vous avez donc ces huit grandes dimensions de l'homme. Ça, il faut y réfléchir. Vous savez, c'est ce que dit Heidegger. Ça donne à réfléchir, ça donne à penser.
Ça donne à penser.
Ça donne à penser. Ça donne à penser. Non, mais c'est curieux, c'est quand même très intéressant de voir, à partir de là, nous sommes partis de la personne. Nous sommes partis de la personne. Oui. La personne est substance. La personne est capable d'aimer. La personne est capable de la recherche de la vérité. La personne est capable du travail, l'homme homo politicus, nous l'avons lu aussi, et nous découvrons le conditionnement de l'homme à cause de son corps et parce qu'il est un vivant biologique, un vivant de vie biologique. Alors vous avez le conditionnement, le devenir, la dimension du devenir. Si vous avez des questions, posez-les là-dessus. Parce que je vais tout de suite tourner, je vais simplement donner ça pour compléter, hein, parce qu'il s'agit de bien voir comment ce que je vous ai donné tout à l'heure, ce que représente la personne, nous le découvrons progressivement à partir de l'expérience. Le philosophe revient toujours à l'expérience. Bien, réfléchissez sur les dimensions de votre expérience, vous voyez que votre expérience, de fait, elle implique le jugement d'existence, ceci est. Il y a l'expérience du vivant, il y a l'expérience du devenir, il y a l'expérience de la coopération, l'expérience du travail, l'expérience de la vie. Vous avez l'expérience type. Oui.
Est-ce que les jeunes sont perméables à ce genre de philosophie? Avez-vous l'occasion de mesurer?
Je ne le donne pas comme ça, hein. Je le donne beaucoup. Ici, je vous donne la synthèse. Hein. Bon, je commence par la philosophie du travail. Tous les jeunes sont perméables à la philosophie du travail. Ils ont tous soif de savoir ce que c'est que le travail. Ils sont tous perméables à la philosophie de l'amour d'amitié. Tous. Bien évident. La coopération aussi. Les jeunes sont très avides de savoir comment construire une communauté. Vous voyez ? Donc ces trois aspects-là, je vous affirme que ça, d'une façon générale, je n'ai aucune dignité. Parce que c'est notre expérience quotidienne. Nous faisons la philosophie de notre expérience quotidienne. Je ne commence pas, vous voyez, toute la différence. La scolastique partait de définition. Je pars de l'expérience. L'expérience quotidienne, notre expérience. La philosophie, c'est la philosophie de l'homme. Bon, je sais très bien que j'ai une grosse expérience du travail, j'ai une grosse expérience de ce que représente l'amour d'amitié et la coopération. Donc nous partons de là. Les jeunes sont très avides de ça. Bon, alors, il faut évidemment, je ne fais pas uniquement décrire, j'analyse. Donc, il faut arriver petit à petit à comprendre ce que c'est que l'analyse philosophique. Mais ça c'est assez bon. À partir de là, philosophie de la matière, par où je montre qu'il y a une connaissance de la vérité pour elle-même. La philosophie spéculative qui recherche qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que le donné antérieur à l'œuvre d'art. Vous savez ce que dit Valéry à propos de M. Teste ? Quand il retrouve sur le proche de la mer, il découvre un caillou. Est-ce que ce caillou a été taillé par l'homme ou est-ce qu'il est tout simplement l'élaboration de l'érosion ? Enfin, j'ai découvert comme ça dans le désert de Juda un magnifique silex taillé. Je l'ai présenté à un bon archéologue. Il dit : est-ce que ce silex a été taillé de main d'homme ou est-ce qu'il est. Il m'a dit, s'il n'est pas taillé, s'il a été taillé de main d'homme, c'est une pièce extrêmement précieuse. Si. Parce qu'il était merveilleux, extraordinaire. C'était vraiment une petite hache, vous voyez, un silex bien taillé. Très étonnant. Mais il m'a dit, il faudrait voir plus près, il faudrait l'analyser plus pour voir. C'est vrai que ce n'est pas commode. Mais au fond, c'est ça que le philosophe s'intéresse. Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Qui est la philosophie de la nature. L'homme, l'univers existait avant l'homme. C'est bien évident. Donc, je dois étudier ça. Ce n'est pas la physique, hein. C'est par rapport à l'homme. C'est pour ça que j'aimerais dire philosophie de la matière. C'est-à-dire de la matière, ce que l'homme est capable de transformer, cette nature. Qu'est-ce que ça représente ? Philosophie du vivant, c'est évidemment c'est l'homme. Je n'étudie que le vivant qu'à partir de moi. Au point de vue philosophique. je l'étudie à partir de ma propre expérience de vivant. Puis, le point de vue de l'esprit, la métaphysique, alors ça c'est évidemment l'aspect le plus difficile, mais le plus important. Sauvegarder une métaphysique, une philosophie première, à partir du jugement d'existence. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que la réalité quand je dis ceci est ? Mon intelligence qui aboutit à saisir ça. Alors là, c'est la grande question de l'esprit. C'est l'intelligence qui se réveille quand elle saisit le jugement d'existence. Et l'intelligence alors se réveille elle-même pour découvrir ce que c'est que l'esprit. L'accueil à l'égard du réel, ce que je disais tout à l'heure. Au fond, en réalité, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? C'est ce qui est capable de saisir ce qui est en tant qu'être. C'est là la meilleure définition de l'intelligence. Ce qui est en tant qu'être. Et le saisir dans ce qu'il est, dans ce qu'il existe, dans sa valeur même d'être, c'est-à-dire sa valeur fondamentale, pas seulement le devenir. Toutes les réalités que je saisis impliquent le devenir, mais elles existent aussi. Et alors c'est là où je découvre l'esprit, et donc c'est là où je découvre la personne même, qui est une substance qui existe, capable d'amour, d'avoir. Et alors, une fois que je suis en métaphysique, je pousse jusqu'au bout, il se pose fatalement la question, la personne humaine est-elle la réalité suprême ? C'est comme ça que je pose le problème du dépassement par rapport à la personne humaine. Et les anciens le posaient par rapport à l'univers. Ça ne va plus du tout. Il faut le poser par rapport à la personne humaine. Parce que la personne humaine est le lieu de toutes les nostalgies. Alors, puisque la personne humaine est le lieu de toutes les nostalgies, il y a là un point de départ psychologique extrêmement intéressant. Et se servir de ces nostalgies de l'homme pour voir s'il n'y a pas une réalité profonde. C'est Feuerbach. Vous savez bien, je ne vais pas parler ce matin de Feuerbach au point de vue des athéistes, parce qu'il n'est pas... Il est au point de vue de l'athéisme, je mets Feuerbach en premier lieu. Feuerbach est celui qui commande tous les autres athéistes, qui commande tout l'athéisme marxiste. Hein. Ce n'est pas Marx qui a inventé l'athéisme, c'est Feuerbach. Il s'appuie sur Feuerbach. Alors Feuerbach est extraordinairement intéressant à ce point de vue-là, parce que Feuerbach montre que si l'intelligence humaine a des nostalgies d'infini, si le cœur de l'homme a des nostalgies d'infini, ça prouve que Dieu n'existe pas. Il faut l'avoir trouvé. Oui, et vous comprenez pourquoi. Parce que si l'intelligence, alors je passe de la nostalgie à l'aspect substantiel, si l'intelligence est infinie, il ne peut pas exister deux infinis. Et je vais falloir oublier que les hommes sont multiples. Il peut y avoir plusieurs nostalgies. C'est pas parce que j'ai la nostalgie d'infini qu'à côté de mon voisin n'a pas. Alors il dit textuellement, c'est l'argumentation de Feuerbach. L'argumentation de Feuerbach, c'est de dire, il y a dans l'homme une nostalgie d'infini. Une nostalgie de bonheur, une nostalgie de vérité infinie. Cette nostalgie d'infini me fait comprendre qu'il y a dans l'homme un absolu. Si l'homme est absolu, Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, l'homme serait relatif à Dieu. Dépendant. Donc il ne serait plus absolu. Alors, il y a une confusion chez lui entre la nostalgie et le point de vue métaphysique. C'est très gros hein, ce que dit Feuerbach, mais ça joue un rôle très très important, parce que Marx s'est servi de Feuerbach pour toute sa position d'athéisme. Alors, vous voyez que c'est important d'essayer de saisir ces diverses dimensions d'une anthropologie philosophique.
Quand je vous donne la question à savoir si les jeunes étaient réceptifs, j'avais quelque chose derrière la tête. Qu'est-ce qui est fait pour les jeunes en matière d'enseignement philosophique ? Et se pourrait-il, est-ce que c'est utopique d'envisager que cela pourrait être donné aux jeunes d'âge scolaire ?
Ouais, ça devrait être quelque chose.
Qu'est-ce qui est fait ? Moi, je
vous dis rien. La métaphysique aujourd'hui est rayée.
Ça s'appelle
Mais vous savez, l'université à Paris, c'est pas plus, hein. C'est exactement la même chose et partout. Qu'est-ce que c'est que l'université aujourd'hui? L'université, c'est étudier ce que les philosophes ont dit. C'est l'histoire de la philosophie. On étudie les diverses opinions et les manières dont les philosophes se sont engueulés mutuellement. Ce sont les disputes philosophiques qu'on regarde.